Je commencerai par une courte citation tirée de la comédie de Charleroi de Pierre Drieux, La Rochelle. La guerre aujourd'hui, c'est d'être couché, vautré, aplati. Autrefois, la guerre, c'était des hommes debout. La guerre aujourd'hui, ce sont toutes les postures de la honte. Alors, dans la débâcle d'Émile Zola, la défaite de Sedan semble temporellement marquer une double rupture historique. D'une part, on assiste à l'effondrement du Second Empire, symbole même de la décadence et de la corruption, et d'autre part, à l'effacement d'une conception épique de la guerre par l'avènement de la guerre moderne. En cette époque de décadence où technique et science semblent contraindre le combattant à adopter la posture de la honte, nous sommes en droit de nous demander si l'armée représente toujours un lieu où le jeune garçon peut faire l'apprentissage de la masculinité et exprimer sa virilité. Au cours de notre communication, nous tenterons de comprendre comment la fiction prend en charge les représentations du jeune militaire dans ce 19e volume de la série des Rougon-Macquart. Nous croyons que l'auteur instrumentalise ici la figure du jeune homme pour parvenir à critiquer le régime politique du Second Empire, l'armée étant la première institution du régime ou l'outil principal de la mise en œuvre de la politique de l'empereur. Nous soutiendrons l'hypothèse que dans une logique purement zolienne, on ne peut assister qu'à l'effondrement du modèle héroïque et à la castration symbolique du jeune militaire. Comme l'a déjà relevé David Bagley, le personnage de Maurice Levasseur agit par la voix de la narration et de la focalisation, comme la conscience centrale du récit et s'avère par conséquent être, et je cite, non seulement le véhicule des idées et des faits, mais aussi un important facteur d'organisation du roman. Il s'agira donc pour nous d'observer dans un premier temps si Zola utilise le jeune Maurice comme un modèle ou un contre-modèle de la virilité, et pourquoi il privilégie un mode de représentation plutôt qu'un autre. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux descriptions physiques et psychologiques du personnage. Par la suite, nous verrons comment la dégénérescence de l'armée de Chalon conditionne le comportement du jeune homme. Pour ce faire, nous nous attarderons à la façon dont Zola présente l'armée et au comportement adopté par les hommes sur le champ de bataille. De prime abord, Zola nous présente le personnage de Maurice Levasseur, fier descendant d'un héros de la Grande Armée, comme un engagé volontaire incorporé au 106e Régiment de ligne grâce à la protection du colonel Devineuil, un ami de la famille. Malgré ce que suggèrent les premières impressions, ce jeune intellectuel, nouvellement reçu avocat, ne s'est pas enrôlé par devoir ou par besoin d'aventure. S'il se trouvait là, engagé volontaire, c'était à la suite de grandes fautes, indique Zola. Ayant ruiné sa famille pendant ses études, en dépensant toutes leurs économies aux jeux et aux femmes, le jeune homme espère racheter ses fautes en se montrant bon soldat. Soulignons au passage que les écarts de conduite de Maurice ont causé la mort de son père et forcé sa sœur Henriette à se dépouiller de tout ce qu'elle possédait. L'auteur nous apprend d'ailleurs que c'est grâce aux nombreux sacrifices et aux privations de cette dernière que Maurice est parvenu à obtenir son diplôme sans déshonorer le nom de sa famille. En tout point, celui-ci est redevable à sa sœur, c'est pourquoi il tente de se racheter à ses yeux. Ainsi pouvons-nous constater que son enrôlement est d'abord motivé par la honte qu'il ressent à l'égard de sa sœur. Cette honte agira sur lui comme une source de motivation tout au long du récit. Cependant, Maurice ne semble pas être à sa place dans cet univers militaire. Zola indique qu'il éprouve dès le départ quelques difficultés à s'adapter à la vie de garnison. On comprend d'ailleurs que son entraînement fut de courte durée. Enrôlé au dernier moment et pistonné par son colonel, celui-ci ne semble pas avoir eu à affronter les épreuves physiques et morales auxquelles sont généralement contraintes les recrues. Puisqu'il n'a pas subi le rituel initiatique de l'entraînement grâce auquel le militaire acquiert habituellement les qualités requises pour le métier, il n'est pas surprenant que le jeune homme soit mal préparé et qu'il éprouve certaines difficultés à effectuer le travail que l'on attend de lui. Citation. La force et la résistance à la fatigue, l'aptitude à surmonter la souffrance physique et la douleur morale, l'acceptation enfin de verser son sang pour la défense du pays, sont autant de qualités viriles qui trouvent leur complet épanouissement dans l'état militaire, rappelle Jean-Paul Berthaud. Par conséquent, nous pouvons nous questionner quant aux dispositions du jeune homme. Les descriptions physiques et psychologiques qu'en donne l'auteur ne semblent pas indiquer que Maurice possède les qualités viriles nécessaires pour devenir un bon militaire. Notons d'abord que Zola donne une seule description précise du physique de Maurice, et ce, dès les premières pages du roman. Il se contente d'indiquer qu'il est blond et petit, avec un front très développé, un nez et un menton menu. Il ajoute qu'il a un visage fin et des yeux gris et caressants un peu fous. Cette description donne très peu à voir si ce n'est un jeune homme qui, par ses traits délicats et sa blondeur, peut révéler une certaine féminité. À sa grandeur, on en déduit qu'il s'agit d'un homme pas très robuste, mais, le manque d'informations rend la chose difficilement vérifiable. Cependant, le peu d'endurance dont il fait preuve semble confirmer notre première impression. En témoigne, par exemple, le secours passage. Maurice marchait d'un pas de somnambule, les pieds saignants, les épaules écrasées par le sac et le fusil. Il ne pensait plus, il avançait dans le cauchemar de ce qu'il voyait. Ici, le corps du pauvre garçon paraît littéralement s'écraser sous le poids de l'équipement militaire. Bien que ses camarades souffrent aussi des longues marches forcées, cela nous rappelle que Jean est exténué par la même fatigue et la même douleur, seul le corps délicat du jeune homme emporte les marques. Blessé au pied, celui-ci est incapable de vaquer à ses occupations durant un bon moment. D'ailleurs, Zola ne manque pas l'occasion de mentionner que Maurice est de sa santé assez fragile. C'est justement la fragilité du garçon qui émeut Jean, le soldat aguerri, fier représentant du soldat laboureur, et l'incite à le prendre sous sa protection. L'auteur indique que Jean s'occupe de Maurice avec des gestes maternels et toute une douceur d'homme expérimenté dont les gros doigts savent être délicats à l'occasion. Ainsi, Jean veille sur son petit, ainsi se plaît-il à l'appeler, comme une mère et un père à la fois, infantilisant par le fait même son compagnon. C'est lui, par exemple, qui soigne son pied, qui le soutient lorsqu'il est à bout de force, qui le nourrit lorsqu'il est affamé et qui le guide sur le champ de bataille. Notons toutefois que leur relation n'est pas sans rappeler la relation pédagogique entre un mentor et son éphèbe, voire entre l'Érasme et les Romaines, et que leur amitié peut parfois sembler suspecte. L'ambiguïté du passage où les deux hommes s'embrassent pour la première fois suggère une relation homosexuelle. En voici un extrait. Ils se serraient d'une étreinte éperdue dans la fraternité de tout ce qu'ils venaient de souffrir ensemble, et le baiser qu'ils échangèrent alors leur parut le plus doux et le plus fort de leur vie, un baiser tel qu'ils n'en recevraient jamais d'une femme, l'immortelle amitié, l'absolue certitude que leurs deux cœurs ne faisaient plus qu'un pour toujours. Si la description physique révèle certains aspects du jeune homme, ce sont davantage ses agissements et son comportement qui permettent de mieux comprendre sa personnalité. Maurice est un personnage sans fixité aucune, soumis à toutes les sautes du vent qui passe, écrit Zola. En d'autres mots, c'est une véritable girouette. Tout au long de la première partie du roman, alors que l'armée de Chalon erre dans les campagnes, répondant aux ordres et aux contre-ordres de tous et chacun, Maurice passe à plusieurs reprises du plus vif enthousiasme au plus grand découragement. Il en sera ainsi tout au long du roman. Son comportement irrationnel le fait passer par toute une gamme d'émotions, crise d'enthousiasme, excès de colère, crise de larmes, crise d'espoir et des illusions de toutes sortes. Ajoutons aussi qu'il souffre d'insomnie et qu'il est parfois animé de pulsions meurtrières et suicidaires. Les épreuves qu'il devra affronter tout au long du récit ne contribueront qu'à exacerber son comportement déséquilibré. Malgré tout, le portrait de Maurice demeure incomplet, voire fuyant durant une bonne partie du roman. Ce n'est que lorsque l'auteur nous donne à voir la jeune Henriette, la sœur jumelle de Maurice, que l'on peut se faire un portrait plus précis du jeune homme. Zola écrit « Alors que dans le jour pâle de la pièce, Jean la vit, d'une ressemblance frappante avec Maurice, de cette extraordinaire ressemblance des jumeaux qui est comme un dédoublement du visage. » Tout comme son frère Henriette a des cheveux blonds et les traits menus. Zola ajoute qu'elle est plus petite et plus mince encore que celui-ci et d'apparence plus frêle. Ainsi, l'auteur confirme que Maurice a une constitution délicate et instaure une gémilité physique entre le frère et la sœur. C'est donc par le portrait de la jeune femme que l'auteur nous donne à voir le jeune homme, confirmant par le fait même une certaine féminité sur le plan physique. Si on peut relever une ressemblance physique entre Henriette et Maurice, il n'en demeure pas moins que leur tempérament s'oppose en tout point. Ce qui la différenciait surtout de lui, c'était ses yeux gris, calmes et braves, où revivait l'âme héroïque du grand-père, le héros de la grande armée, écrit Zola. Notons ici que le regard calme et brave d'Henriette contraste avec celui de son frère, alors que l'auteur qualifie le regard du garçon de caressant, il anime celui d'Henriette de l'âme héroïque du grand-père. Ici, le sexe masculin devient porteur de sensualité et le sexe féminin porteur de qualités viriles, telles que la bravoure et le contrôle de soi. Tout porte à croire que le jeune militaire du Second Empire n'est pas digne de porter la mémoire de l'armée de Napoléon. plutôt que de perpétuer le souvenir de la Grande Armée à travers la figure d'un militaire appartenant à un régime dont il a combattu la décadence et la corruption. Rappelons ici le passage de l'auteur aux journaux La Tribune et La Cloche, où il a animé des polémiques anti-impérialisme. Zola préfère utiliser la jeune femme comme légataire de la mémoire, en fait, de la Grande Armée. À cette jeune femme réfléchie, d'une activité adroite, aux allures résignées et braves, il oppose un jeune militaire à l'apparence désarticulée, faisant preuve, et je cite, « d'une nervosité de femme ébranlée par la maladie de l'époque, subissant la crise historique et sociale de la race, capable d'un instant à l'autre des enthousiasmes les plus nobles et des pires découragements. » Ici, l'auteur dévirilise le jeune militaire en démontrant qu'une femme délicate est plus à même de perpétuer et de sauvegarder la mémoire des pères vainqueurs de nombreuses batailles. Nous assistons donc à une inversion des caractéristiques traditionnelles des genres tels que pensés à l'époque. Alors que la jeune femme démontre les qualités propres aux combattants virils et assure la pérennité historique, le jeune homme révèle les symptômes d'une maladie nerveuse qui pendant longtemps fut associée à la féminité, soit l'hystérie. Bien que le psychiatre Jean-Martin Charcot ait démontré vers 1872 que l'hystérie pouvait aussi bien atteindre les hommes virils que les femmes, il n'en demeure pas moins que Zola utilise les crises de nervosité de Maurice de manière à le déviriliser davantage. Tout au long du roman, il nous présente son personnage comme un être déséquilibré, capable de toutes les extravagances. Par conséquent, ce jeune homme qui ressent l'énervement jusque dans sa chair ne semble pas posséder la maîtrise de soi nécessaire pour devenir un bon militaire. Son comportement rappelle plutôt celui de l'hystérique sur plusieurs points. Nous pouvons par exemple remarquer que Maurice a une forte tendance à faire usage de théâtralisme, que l'avidité affective propre à l'hystérique l'anime et que l'on retrouve chez lui le caractère faible et influençable de certains types d'hystériques. Alors je passerai ici les exemples pour gagner un petit peu de temps. Notons aussi que le personnage de Maurice n'est pas sans rappeler la figure de l'androgyne, bien que les descriptions de Zola ne suggèrent l'androgynie du jeune militaire que de manière implicite. Elle n'en est pas moins présente. Comme nous venons de l'observer, son physique fragile, les traits fins de son visage, la blondeur de sa chevelure et son comportement faible et passionné font de lui un être des moins virils. Toutes ces caractéristiques ne sont pas sans rappeler certains stéréotypes associés à la féminité dans la pensée bourgeoise française de la fin du 19e siècle. Rappelons ici que la plupart de ces caractéristiques reviennent aussi sous la plume des auteurs de cette époque lorsqu'il s'agit de décrire l'androgyne. En plus d'ancrer son personnage dans la féminité par son aspect physique, Zola l'associe sur le plan psychologique à des comportements dits féminins. Cependant, nous ne croyons pas que Zola cherche pour autant à représenter Maurice comme un être totalement débérilisé et efféminé, mais plutôt qu'il cherche à le représenter comme un être en voie de devenir. Cohabitation donc entre le masculin et le féminin, ou plutôt brouillage des caractéristiques propres au genre. Conséquemment, Maurice ne serait-il pas simplement une figure destinée à représenter la dégénérescence de la race française pervertie par le Second Empire? Zola insiste d'ailleurs sur la dégénérescence sociale de la famille du jeune homme, en nous racontant l'histoire du grand-père paternel, vainqueur d'Austerlitz, et celle du petit-fils humilié jusque dans sa chair à ses dents, en passant par la misérable existence du père tombé dans la bureaucratie. L'auteur semble non seulement nous dresser le portrait d'une famille du Second Empire, mais bien celui de toute une nation à tête par une maladie dégénérative, et je cite, « lentement aggravée, aboutissant à la destruction fatale ». Nous croyons que notre jeune militaire, produit par excellence du régime, rappelons qu'il vient au monde en 1841, représente sans aucun doute l'aboutissement de cette dégénérescence. L'instabilité psychologique, l'obsession, l'impulsion, l'ambiguïté sexuelle, l'immoralité sont toutes des stigmates intellectuels propres aux dégénérés, selon Max Nordau. Il est donc des plus intéressants de constater que Zola instaure une analogie entre les crises de Maurice et la crise historique et sociale dans laquelle la société française se retrouve plongée durant cette période trouble. À la fin du roman, le jeune homme compare d'ailleurs sa propre mort à l'amputation d'un membre gangréné. « Tu as bien fait de m'abattre puisque j'étais lucère collé à tes os », déclare-t-il à Jean après que celui-ci ne l'eût transpercé d'un coup de baïonnette. Zola va encore plus loin dans cette analogie lorsqu'il interprète la mort de Maurice. C'était la partie saine de la France, écrit-il, la raisonnable, la pondérée, la paysanne, celle qui était restée le plus près de la terre, qui supprimait la partie folle, exaspérée, gâtée par l'Empire, détraquée de rêverie et de jouissance. Et il lui avait ainsi fallu couper dans sa chair même avec un acharnement de tout l'être, sans trop savoir ce qu'elle faisait. Les médecins d'époque n'hésitent pas à rappeler que le corps est le miroir de l'âme. Si cette affirmation se révèle être un lieu commun à la fin du 19e siècle, il suffit de penser aux travaux des tenants de la théorie de la dégénérescence comme Max Nordau et Bénédicte Augustin Morel. Il est intéressant de voir comment Zola l'applique ici au personnage de Maurice. Cette dégénérescence qui s'affirme chez lui par une féminisation du corps et de l'esprit, rappelons que l'androgyne et l'hystérique sont des contre-types de la virilité à la fin du siècle, reflète on ne peut mieux la décadence du corps social, ou plus précisément du régime de Napoléon III. Par conséquent, il nous paraît intéressant d'observer comment cette dégénérescence est aussi présente dans le corps d'armée, symbole même du pouvoir du Second Empire, et comment celle-ci influence le comportement de notre jeune homme. En effet, tout au long du roman, Zola nous présente l'armée de Châlons comme une entité complètement désorganisée, vouée au fiasco, voire comme un troupeau d'innocents menés au massacre par des imbéciles, écrit-il. Cette armée de la désespérance semble davantage souffrir de l'incompétence de ses généraux que des combats à proprement parler. Les ordres contraires auxquels doivent obéir les hommes sont à la source de leur plus grand malheur. Les marches qui en découlent épuisent les effectifs avant le combat et rendent la logistique d'approvisionnement quasi impossible. Qui plus est, le refus des généraux de marcher à l'ennemi n'aide à rien à remonter le moral des troupes. Rapidement, Maurice éprouve de la honte d'appartenir à cette armée en perdition. Alors qu'il déjeune dans un cabaret, le jeune homme est frappé par la dure réalité. Le récit des soldats vaincus avec lesquels il déjeune n'a rien à voir avec les récits épiques des guerres napoléoniennes que lui racontait son aïeul lorsqu'il était enfant. La guerre moderne ne laisse ici aucune place à l'héroïsme et à la bravoure. Le courage dans ces histoires-là, ça ne sert qu'à rester sur le carreau, en vient en déclarer l'un des deux hommes. Les héros d'antan sont substitués par des fuyards. Effondrement donc du modèle héroïque, les soldats du Second Empire ne paraissent plus être que les ombres déglinguées des soldats de la Grande Armée. Cependant, le témoignage de ces fuyards permet aussi à Maurice de prendre conscience des événements. Zola profite d'ailleurs de ce moment pour partager son hypothèse sur la défaite française. La méthode, la logique et la discipline supérieure du peuple allemand expliquent sans l'ombre d'un doute les déboires de l'armée française. L'esprit scientifique nous a battus, ayons l'esprit scientifique avec nous si nous voulons battre les autres, écrit-il dans sa lettre à la jeunesse rédigée quelques années après la bataille de Sedan. L'affirmation de Zola se retrouve dans la pensée du jeune garçon en ces mots. Nous étions mal préparés, une artillerie médiocre, des effectifs menteurs, des généraux incapables, et l'ennemi tant dédaigné apparaissait fort et solide, innombrable, avec une discipline et une tactique parfaites. Malheur à qui s'arrête dans l'effort continu des nations, la victoire est à ceux qui marchent à l'avant-garde, aux plus savants, aux plus sains, aux plus forts. Il arrive assez régulièrement que Maurice interprète les événements avec une grande lucidité, mais hélas, pour lui, son grade l'empêche d'avoir une quelconque emprise sur les événements, voire même sur sa propre destinée. Notre jeune homme se voit symboliquement castré à plusieurs reprises, puisqu'il doit sans cesse se plier aux ordres de ses supérieurs. C'est d'ailleurs l'incompatibilité entre les valeurs viriles et la soumission que l'on exige du soldat qui semble en partie imposer à Maurice une posture honteuse. Puisqu'il demeure toujours très sensible au jugement des autres, il éprouve à plusieurs reprises de la difficulté à assumer la responsabilité des décisions ou des actions qui ne relèvent pas de son libre arbitre. Ainsi en est-il, par exemple, lorsqu'une vieille dame insulte les troupes françaises qui battent en retraite sans même se battre. Il en eut un saisissement, sentit l'injure qu'on ne méritait pas et qu'il fallait subir. Même son de cloche lorsque, prisonnière des Prussiens, l'armée française quitte la presqu'île Dige, où elle était retenue, ne pouvant assumer la défaite, le jeune homme est étouffé par la honte et est incapable de surmonter le regard des femmes. Son désir de combattre et de vaincre et l'impossibilité d'y arriver au sein de cette armée, d'abord désorganisée et ensuite défaite, fait naître en lui un sentiment d'impuissance qui exacerbe sa nervosité. Par la suite, j'aurais aimé aussi vous présenter de quelle façon la guerre moderne impose une posture honteuse au jeune homme sur le champ de bataille en le castrant symboliquement. J'aurais aussi voulu aborder la question du modèle en vous démontrant comment le jeune homme en vient à ne plus avoir de repères suite à l'effondrement des modèles héroïques sur le champ de bataille. Retenons pour l'instant que, bien que Maurice sache par moments se montrer courageux, il oscille constamment entre honneur et déshonneur, entre courage et lâcheté. Bien que l'Aristéa se révèle être l'idéal auquel il aspire, rappelons que ses actions sont en tout temps motivées par le jugement que les autres portent sur lui, Maurice n'est pas en mesure de s'en montrer digne en tout temps. Retenons aussi que les seules personnes qui parviennent à agir et à poser des gestes concrets sont des civils qui se battent pour protéger leurs biens et qui ne sont pas des agents du pouvoir soumis à la hiérarchie militaire. Au terme de notre analyse, il apparaît clairement que le personnage de Maurice ne répond en rien aux standards de virilité du 19e siècle, s'inspirant de l'idéal de beauté établi par Winckelmann. Le jeune homme ne ressemble aucunement à ces jeunes athlètes grecs, et je cite, dont le corps et l'attitude expriment la puissance et la virilité, mais aussi l'harmonie, la justesse des proportions et la maîtrise de soi. En effet, pour reprendre l'opposition développée par Jacques-Louis David, son comportement rappelle davantage la faiblesse des passions féminine que le calme et la noblesse morale propre au héros. Tout chez lui semble déréglé. La faiblesse du corps fait miroir au déséquilibre de l'esprit. Sa fragilité physique et émotive s'avère donc incompatible avec un univers militaire où virilité rime avec insensibilité. En lui attribuant des traits qui rappellent l'hystérique et l'androgyne, Zola parvient à faire un contre-type avec son personnage. Ainsi, ce jeune homme dévirilisé, produit du Second Empire, permet à l'auteur de projeter une image sociale révélant la dégénérescence du régime de Napoléon III. Il en va de même de cette armée que la guerre moderne confine à l'immobilisme, représentant d'une part le pouvoir de l'Empire et d'autre part une façon de penser de faire la guerre complètement désuète. Et plus c'est, la posture de la honte mise de l'avant tout au long du roman permet à Zola d'adopter une posture à la fois historique, politique et esthétique. En recréant les événements qui ont mené à la grande débâcle de Sedan à partir d'une impressionnante documentation, l'auteur espère démontrer que la défaite française résulte d'une absence de méthode, de logique et de discipline. Bien entendu, il rejette aussi la défaite sur les erreurs et les fautes d'un régime en pleine décadence. Comme le rappelle Sylvie Torel-Caïto, et je cite, « Raconter la défaite de Sedan, c'est pour Zola redire la nécessité du naturalisme comme principe de reconstruction. Ainsi, en nous présentant l'échec d'un jeune homme qui se laisse guider par ses passions, rappelons que Maurice se joint au communard et que la commune représente dans l'esprit de Zola l'aboutissement de la folie destructrice des romantiques, l'auteur cherche à étayer son hypothèse. Si notre jeune bourgeois intellectuel de la ville, symbole de la générescence du Second Empire, est incapable de surmonter la honte et la défaite et sombre dans les illusions romantiques, il doit en être autrement du peuple français. Celui-ci doit parvenir à quitter cette posture honteuse et à retrouver le chemin des honneurs et de la gloire par l'entremise de l'esprit scientifique s'il veut se réapproprier une virilité nationale. Nous pouvons donc en conclure que l'univers militaire, chamboulé par les nouvelles réalités instaurées par la guerre moderne, ne représente plus un lieu propice à l'affirmation de la virilité ou au développement de la masculinité. Merci.